6 bourses qui s'occupent de cette vente de quotas. Et certaines bourses ont carrément diversifié leur offre. C'est-à-dire qu'on n'est plus qu'au quota. Il y a aussi maintenant des futurs, des swaps. Et on voit vraiment que ce quota est devenu un vrai produit financier en tant que tel. Et chaque bourse a un peu ses spécificités, mais ça fonctionne. Alors, il y a différents marchés également. Il y a le marché européen et puis il y a le marché des MDP. Donc, comme on a vu, le mécanisme de flexibilité, dont le prix du quota est toujours un petit peu en dessous du marché européen du carbone parce que ça demande une autorisation et un accord de l'ONU. Or, c'est un risque. Est-ce que l'ONU va bien et bien accepter que ce projet rentre sous les critères de Kyoto? Et donc, on voit vraiment que ces bourses représentent maintenant une offre très diversifiée. Alors, il y a un deuxième intermédiaire financier qui est né et qui est très important, ce sont les monteurs de projets Kyoto. Vous, entreprise de taille moyenne qui est soumise à la directive européenne, vous aimeriez bien quand même créer un champ d'éolienne en ex-Yougoslavie. Bon, très bien, mais vous n'avez pas la compétence pour ça. Et donc, vous avez des intermédiaires qui disent, écoutez, venez, vous nous donnez un peu d'argent. Nous, on récolte cet argent auprès de plusieurs entreprises et on vous fait votre champ d'éolienne et vous aurez un retour de quota d'ici quelques années. Et donc, on a des entreprises qui montent, qui ne font que ça, dont l'objet social est de monter des projets Kyoto pour obtenir des quotas. Et ça, c'est vraiment un marché florissant. Troisièmement, les fonds d'investissement, on y revient. Toujours eux, ils ne voient dans la lutte contre le réchauffement climatique qu'un produit financier. Et donc, les fonds d'investissement ont connu une évolution très intéressante. Au départ, c'était uniquement entre les mains des gouvernements. Les gouvernements ont dit, voilà, on va créer une structure financière qui va nous permettre de mettre notre argent public dans le montage de projets Kyoto. Et donc, c'était des fonds gouvernementaux, en quelque sorte. Et puis, ils se sont rendus compte qu'il y avait une demande du public, des grosses sociétés. On a fait des fonds d'investissement mixtes. Et maintenant, on arrive à une troisième génération qui sont les fonds purement privés. Et donc, vous pouvez aller chez Dexia et demander d'investir dans une SICAV qui fait des projets d'éoliennes au Kosovo, sans problème. Et donc, ces fonds d'investissement, leur objet social, c'est uniquement de faire un retour sur investissement par rapport au quota. Donc, c'était juste pour vous montrer que ça, c'est vraiment la plus grande partie des acteurs, ce sont des financiers et on est bien loin de ce que nous avions décidé à Rio en 1992. Alors, très rapidement, voilà l'évolution du quota. Vous voyez la période de 2005 à 2007. Ensuite, la période dans laquelle on se trouve de 2008 à 2012. Alors, pour donner suite à ce que vous disiez, monsieur, c'était très intéressant par rapport aux plans nationaux d'allocation des quotas qui avaient été trop généreux, qui avaient été pas toujours bien faits, qui n'étaient pas toujours faits de bonne foi. On se rend compte que la première dégringolade qui a eu lieu en 2006, là, vous voyez le cours qui monte et qui tout à coup, c'est quand on a eu les premières vérifications et qu'on s'est rendu compte que ces plans nationaux d'allocation des quotas, c'était du n'importe quoi et que les États avaient été beaucoup trop généreux pour ne pas discriminer leurs entreprises nationales. Et c'est là, que le marché s'est rendu compte qu'il y avait trop de quotas, trop d'offres. Et donc, clac, le marché a tout à fait avec cette information, et tout le monde a décidé de vendre et le prix du quota est complètement descendu. Alors, en fait, les fluctuations répondent à quatre facteurs. Il y a les facteurs classiques, j'entends par là, donc ça peut être le fait qu'il fasse plus chaud, que le prix du pétrole augmente ou diminue. Tout ça fait que le cours, en fonction de le prix de l'énergie qui est plus carbonivore qu'une autre, eh bien que le cours varie. Il y a un deuxième facteur qui est intéressant ici, au-delà du facteur classique, c'est la bancabilité. Drôle de mot. La bancabilité, c'est la faculté pour une entreprise de pouvoir garder ses quotas d'une période à une autre. Est-ce que de la première phase à la deuxième phase, on pouvait reporter les quotas? Est-ce que de la deuxième phase à la troisième phase, on peut les reporter? Et on se rend compte qu'il n'y avait pas de bancabilité entre la première et la deuxième phase. Et donc, on se rend compte que le quota est arrivé à proche de zéro, puisque vous aviez un quota que vous ne pourriez plus revendre dans quelques jours ou quelques semaines. Ça ne vaut plus rien. Et donc, le prix s'est vraiment écroulé. L'Union européenne s'est rendue compte de ça et donc ils ont introduit dans les directives que maintenant c'est possible la bancabilité entre la deuxième et la troisième phase et ils ont rassuré le marché en disant « et dorénavant, ce sera toujours possible ». C'est une manière de rassurer le marché et donc d'assurer que le cours soit moins volatile. Ça me paraît assez logique. C'est ça que j'entends par la bancabilité. Il y a aussi la question de l'allocation initiale. Est-ce qu'on a dû l'acheter ou est-ce qu'il est reçu gratuitement a une influence directe sur le cours. Et enfin, le troisième et dernier point, c'est la fongibilité, terme technique juridique, qui veut en fait dire l'interchangeabilité. Est-ce que mon quota européen, je vais pouvoir l'utiliser au niveau du marché international? Est-ce que je vais pouvoir l'utiliser pour les mécanismes de développement propre? C'est-à-dire que est-ce que ce que j'ai sur un marché va pouvoir valoir sur d'autres? Et donc ça vaut dans un sens, mais ça vaut aussi est-ce que d'autres quotas vont pouvoir arriver sur mon marché européen et faire que l'offre est plus ou moins importante. Et donc ça a beaucoup influencé le cours. Voilà. Je voulais juste vous sensibiliser concernant la volatilité du marché dans un premier temps, qui maintenant, depuis quelques mois, depuis quelques années, depuis 2008, c'est relativement stabilisé entre 10 et 15 euros la tonne de CO2. Alors, vers un marché global, j'ai appelé. On a actuellement une mosaïque de marchés. Il y a le marché international Kyoto, qui n'est pas très développé, qui existe, mais comme je vous ai dit, les États, on ne sait pas bien ce qui se passe, et c'est un marché qui fonctionne que par à-coup. Il y a le marché, bien entendu, européen, qui lui est un marché qui existe, qui est le leader du marché. Et on voit que les États-Unis ont mis en place certaines initiatives. Alors, il y a une initiative fédérale. Il y a une loi, une proposition de loi qui a été adoptée à la Chambre des représentants pour, finalement, créer un marché du carbone qui serait assez similaire au marché européen. Alors, j'ai été à une conférence mardi dernier à Paris, organisée par des Américains, et ils arrivaient tous avec une mine très triste parce que, en fait, la proposition a été rejetée au Sénat. Et donc, toute cette longue procédure législative, tout ce projet qui était passé à la Chambre des représentants venait de se voir refusé par le Sénat. Ce qui fait que, pour l'instant, toute initiative fédérale ou tout système au niveau fédéral américain est impossible. C'est possible qu'une autre proposition de loi arrive d'ici quelques mois, quelques années, mais on est reparti pour un grand tour. Donc, au niveau des États-Unis, rien. En revanche, les entités fédérées, c'est-à-dire la Californie principalement, les États du Nord-Est, il y a aussi une initiative entre les États du Nord-Ouest avec le Canada, eux, sur une base volontaire, comme on l'avait évoqué plus tôt, ont essayé de mettre en place des mécanismes de marché qui fonctionnent, mais qui sont vraiment encore à la marge par rapport au marché européen. C'est que quelques entreprises, les objectifs sont assez faibles et on voit bien qu'il y a une volonté d'un certain nombre d'États, mais ça ne prend pas vraiment, vraiment bien. Et tant que ça ne sera pas établi au niveau de tous les États-Unis, ça restera toujours un peu à la marge. Et le marché californien est sans doute celui qui est le plus au point des États-Unis. Le Canada, donc, je vous l'ai dit, soit avec un partenariat avec les États-Unis, soit au niveau fédéral, ils discutent un peu la même chose. Pour l'instant, rien n'est voté, mais c'est en cours. Le Japon a également mis en place au niveau national. La Suisse, c'est en discussion, ainsi que la Nouvelle-Zélande. Alors, quelle est la stratégie de l'Union européenne? L'Union européenne, c'est très clair. C'est marqué dans leur communication, leur livre blanc. Ils veulent étendre le système européen aux autres marchés. Et donc, ce qui se passe, c'est que dès qu'un marché est mis en place ou est sur le point d'être mis en place, ils contactent les autorités politiques pour essayer qu'il y ait cette fongibilité, cette interchangeabilité et que les mécanismes de contrôle, également qu'un quota européen soit équivalent à un quota canadien et tout, pour que du marché européen, eh bien, on essaye d'agréger au fur et à mesure les autres marchés internationaux pour en faire du système européen, le système global, le système de leader du marché. Donc ça, c'est vraiment ce qui est actuellement, c'est l'enjeu. Et ça n'a pas encore eu un énorme succès, puisque à ma connaissance, il n'y a pas d'accord signé encore en tant que tel et de fongibilité autre qu'avec les mécanismes de développement propre proposés par Kyoto. Alors, pour continuer, ma question, c'est la financiarisation de la lutte contre le réchauffement climatique est-elle souhaitable? Belle question. C'est-à-dire, on peut dire, oh, la finance, c'est pas bon. Où la finance, c'est très bien, ça permet. Soyons pragmatiques, selon la bonne vieille école de Bruxelles. Et donc, je vous ai fait un petit slide, je crois que c'était un des derniers récapitulatifs. Au départ, ce qui a fait l'origine du système, son succès, sa force, c'est que le système prévoit la régulation des choix par les prix sur base d'une quantité fixe déterminée par l'autorité politique. Quelle est cette quantité fixe? C'est moins 5,2% par rapport aux émissions de 90. Pour l'Union européenne, c'est moins 8%. On a dit que le système des quotas était le meilleur parce qu'il permettait qu'on ait une quantité fixe, on donnait un nombre de quotas, qu'on redistribuait, qu'on était sûr de l'efficacité environnementale de ce système. C'est pour ça qu'on n'a pas pris par les prix ou par un système de command and control. C'est parce qu'on était sûr du résultat. Et qu'est-ce qu'on voit, au niveau européen en tout cas? Eh bien, on voit que les acteurs ont les moyens maintenant de jouer sur les quantités disponibles. Les quantités disponibles en fonction des choix des entreprises. De plus ou moins polluer. Ça reste quand même un choix au niveau de l'entreprise qui, s'il est multiplié par 12 000, va avoir une répercussion. Il y a aussi les quotas émis par les États planche à billets. C'est-à-dire que les États, ce qu'ils essayent de faire, ouais, je pense que c'est mon GSL, que les États essayent en quelque sorte de faire les plans nationaux d'allocation des quotas les plus généreux pour leurs propres entreprises. Et donc qu'il y ait un maximum de quotas pour leurs entreprises nationales qui soient sur le marché. Ce n'est pas tout à fait en phase avec le système de régulation par les quantités. Il y a aussi les quantités émises par les intermédiaires financiers dans le cadre des MDP. C'est-à-dire que les mécanismes de flexibilité, comme je vous l'ai dit, ces quotas créés ex nihilo dans des pays qui ne sont pas soumis, arrivent sur le marché dans des proportions de plus en plus importantes. Ça a pris un petit peu de temps parce que c'est chaque fois des entreprises de longue haleine de créer un champ d'éolien en Éthiopie. Ça met quelques années, récolter l'argent, trouver les interlocuteurs sur place, faire venir les éoliennes, tout ce qu'on veut. Et donc on voit que il y a de plus en plus de quotas MDP qui ne rentraient pas en ligne du compte au départ, qui arrivent, et ces MDP, on ne sait pas quelle est la quantité finale. Des projets vont peut-être être refusés par l'ONU, d'autres vont être acceptés, donc c'est très indéterminé. Aussi, les quantités en provenance d'autres systèmes fongibles. Si tout à coup l'Union européenne décide de faire une fongibilité avec la Californie, eh bien tout à coup on va avoir des milliers, des millions de quotas californiens qui vont arriver sur le marché européen. Tout comme des quotas européens qui vont partir là. Mais donc, de nouveau, les quantités deviennent totalement indéterminées. Et alors, le dernier point que je n'avais pas encore évoqué, qui est le quota retiré, annulé du marché par les ONG, provient du fait que la directive européenne a voulu donner un pouvoir aux particuliers d'être actifs sur le marché. Et donc, vous, en tant que particulier, vous pouvez demander à l'État belge d'être inscrit au registre, le fameux registre des quotas, d'acheter, si vous êtes Greenpeace, vous voulez acheter 1000 quotas, et vous pouvez demander au registre de les annuler, comme on annule une action. Et donc, vous retirez autant de quotas, autant de milliers de tonnes de CO2 du système. Alors, moi, j'ai fait le petit exercice. J'ai voulu le faire au nom de mon centre de recherche, en me disant, voilà, on va même plus que le faire que pour un quota, voir comment ça fonctionne. Toujours cette approche très pragmatique. Et alors, j'ai contacté une bourse. Alors, la bourse m'a dit, oui, écoutez, il n'y a pas de problème. Mais vous devez devenir membre de la bourse. Okay, très bien. Comment on devient membre? Il faut remplir un petit formulaire, rien de particulier. Et il faut évidemment payer une cotisation qui, pour un particulier, était de 12 500 euros. Donc vous imaginez la barrière à l'entrée pour un particulier. Je l'ai fait que pour une bourse, la Bourse de Paris. Hein, d'accord, mais 12 500 euros. Je veux dire, peut-être que c'est possible pour Greenpeace ou des grosses ONG, mais en tout cas pour des particuliers, qui va, avant de pouvoir éliminer un quota, payer 12 500 euros? Bon. Donc ce système existe dans les textes, mais actuellement n'est pas du tout efficace. Mais je voulais dire que c'est aussi un facteur qui pourrait influencer. Et donc, et ça c'est ma conclusion du marché européen et cette financiarisation, c'est que le marché devient ainsi un mode d'arbitrage entre les préférences des stakeholders, déterminant en dernière instance le seuil de pollution acceptable. Et donc on voit d'un marché qui au départ était uniquement un moyen, un lieu d'échange, on voit que le marché s'est emparé du système et en devient l'arbitre, c'est lui qui maintenant détermine la norme. Alors, on peut discuter ensemble si c'est bien ou pas bien, mais en tout cas, ce n'est pas ce qui était voulu au départ, et ce n'est pas là-dessus qu'il y avait eu un consensus politique. Et donc, en ça, il faut attirer l'attention, et c'est un risque qui est plus que potentiel, puisque là, il est vraiment réel, et que de 2012 à 2020, ça risque de se renforcer encore quand on voit que le marché européen du carbone se compte maintenant en dizaines de milliards d'échanges, et devient vraiment un secteur de l'économie qui est fondamental. Est-ce que vous avez des questions? Oui, vous en avez.
Une brève question. Ce marché se complique. Il ressemble de plus en plus à un marché financier traditionnel. Est-ce qu'il y a des mécanismes en place ou prévisibles qui permettraient d'éviter une dérive spéculative qui a conduit au crash boursier que l'on connaît sur les marchés traditionnels? Est-ce qu'il y a un risque que ceci se produise avec ce marché-ci? Et que peut-on faire pour l'éviter?
Donc, en fait, il n'y en a pas de filet de sécurité à part la Commission européenne. La Commission européenne peut éventuellement vite agir par voie de réglementation pour rajouter des quotas, pour être plus strict par rapport aux plans nationaux d'allocation des quotas. Donc c'est la Commission européenne qui essaye de plus ou moins soutenir le coup. Elle soutient le coup par voie réglementaire, mais il n'y a que ça.
Je suis tout sauf banquier expert en crise financière, c'est le rôle d'où
ils pourraient jouer la fête.
Mais il semblerait qu'une des causes, c'est une succession d'actifs transformés en passifs, transformés en actifs, dans un système de plus en plus complexe, avec des coûts de rétroaction qui rendent le système instable, et beaucoup plus rapidement qu'une autorité de contrôle ne puisse réagir. Est-ce que vous croyez que c'est un risque potentiel pour le système?
C'est une planche à billets. Ils vont créer des quotas qui ne s'appelleront pas l'euro ni le dollar, mais ce sera des quotas.
C'est la nouvelle monnaie, hein. Oui,
c'est une nouvelle monnaie.
C'est une nouvelle monnaie.
C'est un dévoiement qui est assez similaire au dévoiement de l'accord de Bretton Woods à propos de nous. Moi, ce qui m'étonne, c'est qu'on puisse faire une quantité de carbone au niveau universel.
Oui.
C'est une grandeur physique qui a un chiffre bien déterminé en tonnes, exprimé en tonnes ou en kilotonnes ou en mégatonnes. Mm-hmm. 5% ou 6% de ce montant-là, c'est un chiffre. Alors, comment peut-on créer d'autres quotas que ce chiffre-là? On connaît la production de CO2 de l'année 1990.
Oui.
On peut l'exprimer en tonnes, je suppose. On peut multiplier par 0,6%. Et on a un autre chiffre. Comment peut-on créer d'autres quotas que
le système de la monnaie?
En 1990, on a bien pris la quantité de carbone produite par la planète Terre,
oui,
par tous les acteurs de la planète Terre.
Et les quotas n'est qu'une représentation symbolique
symbolique.
Oui, symbolique. Le quota, ce n'est pas le quota de carbone en lui-même, c'est une expression symbolique. Tout comme l'or, une expression symbolique.
Je comprends ce que vous voulez dire.
Vous
dites quelque chose qui n'est pas tout à fait exact, en fait. Donc, on n'a pas pris 5% des émissions globales de la Terre. Ce sont les pays de l'annexe 1, industrialisés, qui sont tenus à une réduction de 5,2%.
Et une partie des acteurs.
Et tous les autres pays qui sont non annexe 1, donc qui sont dits en voie de développement, dont on l'a souligné la Chine et l'Inde, donc le Brésil, ceux-là peuvent continuer. En fait, c'est cette fameuse responsabilité commune mais différenciée. On a considéré qu'eux, on ne pouvait pas leur imposer de mettre un frein à leur développement économique pour résoudre un problème dont ils ne sont pas d'accord.
Je reviens à ma remarque au début de la réunion, il faut considérer le système Terre.
Mais quand
on définit une quantité de carbone que l'on peut envoyer dans l'atmosphère, il faut la calculer sur l'ensemble de la quantité de carbone produite par tous les acteurs de la planète.
Il
n'y
a pas de gouvernement mondial qui le gère.
Voilà, il n'y a pas d'État mondial, il n'y a pas de gouvernement mondial.
Attendez, à nouveau, j'aimerais vraiment, je pense, pour le temps qui nous reste, qu'on laisse terminer Arnaud et qu'après on définisse vraiment les axes de discussion, parce que sinon on n'y arrivera pas, je veux dire. Ou alors on aura abordé quelques points comme ça ici à la faveur de ce que présente Arnaud, mais à mon avis, on pourra passer à côté de choses peut-être encore plus importantes.
Mais écoutez, je suis presque arrivé à la fin. Donc, moi, je voulais lancer également le débat. C'est en fait, quand on regarde, c'est quelle place on désire donner à l'économie dans nos sociétés, dans le rôle politique, à l'économie, au marché. Quelle est la place du marché pour résoudre des problèmes politiques? C'est finalement, en premier lieu, il faut d'abord répondre à cette question-là. Et puis après, on donne une place plus ou moins importante au marché en fonction de cette question de philosophie politique. Alors, vous avez un certain nombre d'options. Vous avez une option plus néolibérale qui consiste à vraiment donner au marché la toute-puissance avec un minimum de contrôle, la version très hayekienne. Vous avez une version plus d'État-providence avec l'État qui s'occuperait de tout et on rentre plus dans une logique de taxe où l'administration devrait vérifier chacun des établissements et vérifier qu'il ne pollue pas trop. Et s'il pollue, à ce moment-là, on met des amendes et on arrive avec une logique plus du policier qui arrive à faire ça. Ou alors il y a une logique intermédiaire qui est celle que moi je défends, qui est ce qu'on appelle l'ordolibéralisme. L'ordolibéralisme que vous connaissez sans doute sous le nom de l'école de Francfort, c'est ce qui est à la base de l'État allemand, enfin de l'État allemand moderne ou de l'Union européenne, qui consiste à dire: laissons le marché le plus libre possible, mais un marché libre ne s'imaginent qu'avec une autorité de contrôle qui vérifie que les grandes libertés économiques sont respectées. Le droit de la concurrence, le fait qu'il y ait une possibilité de recours judiciaire au cas où ça se passerait mal. Donc, c'est une espèce d'entre-deux qui permet de créer les conditions nécessaires à un marché libre. Mais pour qu'il y ait un marché qui soit libre, ça demande que ces conditions soient mises en place par une autorité publique. Et que cette autorité publique agisse, dans ce cas-ci, un peu comme une autorité de régulateur, de contrôle. Et il me semble que, ici, la seule possibilité, c'est que l'ONU devienne cette autorité de contrôle, ou qu'on crée une agence qui contrôlerait que ces marchés ne connaissent pas cette dérive de financiarisation, mais restent bien, si on veut, dans le sérat de son objectif politique premier, qui est la lutte contre le réchauffement climatique. Je pense que ce n'est pas tellement idéaliste, je pense que l'ONU a les moyens de le faire, qu'un consensus doit être possible, et qu'il faudrait beaucoup, beaucoup donc, s'inspirer de cet ordolibéralisme qui a fait ses preuves maintenant depuis 50 ans, qui est balisé, dont on connaît les limites, les craintes et tout, et que ça, c'est ce qu'on voit. Parce qu'actuellement, si on continue comme ça, dans quelques années, ce sera vraiment un produit financier comme d'autres. Si vous investissez dans une SICAV immobilière au Bangladesh ou un quota de CO2, ce sera ça, et on aura tout perdu. Et qui se sera enrichi le plus? Mais ce seront nouveau les financiers, et on aura les mêmes effets. Donc voilà ce que je voulais un petit peu vous expliquer en termes techniques, en termes peut-être de grandes questions. Et maintenant, je pense que la discussion peut pour les...
Quels sont, pour toi qui travailles au Grand Centre de Développement de Philosophie du Droit, donc, par rapport à ces questions, les questions philosophiques majeures? Dans ce que tu viens d'évoquer, il y a une question liée à l'efficacité, hein, parce que la financiarisation mène en fait à une perte d'efficacité dans le combat contre le réchauffement climatique, c'est ce que tu viens de dire. De la discussion qu'on a eue, ou des discussions qu'il y a eues, il y a eu beaucoup de fois le retour de la question autour de l'équité, savoir s'il n'y avait pas de discrimination, s'il n'y avait pas de distorsion de concurrence, etc. Et il y avait une opposition alors aussi entre équité et efficacité, surtout Stéphane qui évoquait que bon, il faut être pratique, vouloir être parfaitement équitable, ce n'est peut-être pas efficace ou applicable, donc ça pose des questions. Est-ce qu'il y a d'autres éléments donc, de ce conflit entre guillemets équité-efficacité que tu vois et qui te paraissent importants?
Mais je pense que vraiment la question d'équité contre efficacité se pose à deux moments essentiels de tout le schéma. Au départ, le système. On a évoqué le système de par tête d'habitants dans le monde. Nous sommes des citoyens du monde et le problème climatique est un problème global et donc chacun devrait avoir un certain nombre de tonnes de total. Ça me paraît a priori le système le plus équitable. Donc c'est ce qu'on appelle dans la doctrine le système de contraction and convergence, qui est déjà appliqué en partie en Angleterre, qui consiste à dire voilà, maintenant il faut que ce soit la planète Terre avec chacun son petit quota et qu'éventuellement on puisse les vendre si quelqu'un les utilise. Donc il y a d'abord la philosophie de départ de l'équité, c'est quel système on a? Parce que là on a juste les systèmes des pays développés, les pays de l'OCDE, l'annexe, je crois que c'est l'annexe B ou l'annexe
C. Ça dépend en fait, selon qu'on est dans la convention cadre ou dans le protocole. Ah,
voilà, mais donc on n'a qu'une partie des États qui sont en protocole, et donc le fait qu'il y ait toute une partie d'États qui sont en porte-à-faux pose un énorme problème par rapport à l'idée d'équité, et qui n'est justifié actuellement, je n'ai pas dit justifiable, que par l'efficacité. En disant, ben oui, ben, il faut bien qu'on mette un système en place, et c'est le seul qu'on a trouvé, et celui-là, il fonctionne. Donc là, je pense que par rapport à la philosophie de départ, il y a cette grande question-là. Et alors, c'est pas plus anecdotique, mais il y a la question de l'équité par rapport à l'allocation initiale gratuite ou par rapport à la vente aux enchères. Pour les entreprises, c'est très important. Là, il y a une vraie question d'équité qui se pose. Ça, c'est, je crois, deux choses dont on peut débattre et dont il faut débattre. C'est que, est-ce que vous considérez que le système mis en place par Kyoto est équitable, finalement?
Et alors, avant de laisser la parole à tout le monde, il y avait la question de Philippe tout à l'heure sur le fait qu'il faudrait donner un droit à chaque individu. Ce serait la meilleure façon de procéder. Mais ça...
Moi, je suis complètement contre.
Alors, oui, justement, ce que je voudrais que tu nous dises, c'est pourquoi tu es contre et quand même pointer qu'il y a là aussi un parti pris presque idéologique ou philosophique, en tout cas très marqué, qui est très individualiste. Hein, c'est de dire que, en fait, la base ultime de toute chose, c'est l'individu. Mais ça pose là aussi probablement des questions d'équité. apporter, parce que même si on est tous en droit égaux, on n'a peut-être pas de facto
les mêmes.
Voilà. Donc comment vois-tu
ces... Non, mais moi ce que je vois surtout, c'est alors une analyse foucaldienne de la chose. Ouais. Foucault. C'est-à-dire que si chacun a son quota, et que l'État ou l'autorité publique, qu'importe ce qui est né, doit commencer à vérifier et à contrôler là où on dépense nos quotas et éventuellement les redistribuer et tout. Ça donne à l'autorité publique une place dans notre vie qui est énorme. Ça va vraiment faire le contrôle benthamien, le panopticon, c'est l'État connaîtra exactement dans quelle voiture vous roulez, bon c'est peut-être déjà le cas, mais ce que vous mangez, ce que vous buvez. Ce que je veux dire, c'est que ça demande alors une place à l'autorité publique qui me paraît inquiétante, qui me paraît très inquiétante, et qui pourrait encore se justifier peut-être dans certains États, mais qui dans d'autres États pourrait être vraiment catastrophique, en fonction du système politique en place. Et donc voilà pourquoi je suis contre. Même si c'est séduisant a priori, on se rend compte que les contrôles que ça nécessite sont catastrophiques en termes de liberté publique.
Mais pourquoi est-ce qu'on ne pourrait pas organiser ça de la même façon qu'on fait pour l'argent, pour la monnaie? On a une banque nationale et puis différentes banques privées. Chacun aurait son compte du CO2.
Alors,
une banque, quand on achète un produit, ben, d'une part, il y a des euros qui sont à la banque nationale et chaque produit devrait être lié au service, devrait être lié à des unités de CO2 correspondantes. Et donc, on dit que son compte CO2, le nombre d'unités CO2 consommées.
Mais ça veut dire donc, comme le vient de le dire Asno, que, que l'État, entre guillemets, pour débiter... Ouais. Ton compte a une vision sur tout ce que tu achètes.
Ma banque de CO2 aurait...
Il y a déjà la taxe.
Oui, mais l'État n'attend pas ça. La coopérative, l'État n'attend pas ça pour s'immiscer dans la
vie personnelle.
On va avoir d'ici quelques années des outils sur nos voitures qui vont permettre à tout le monde, à quelques personnes, de savoir exactement où on est. À tout le moment de vie.
Le GSM,
c'est
pas hier.
C'est un risque qu'il faut certainement prévoir. Il faut certainement y penser. Mais je voudrais quand même dire que si c'est vrai que les autorités publiques risqueraient d'avoir des... Enfin, vont certainement avoir des connaissances plus intenses sur nos comportements individuels, ça nécessite que parallèlement à ça, nous développions les contrôles démocratiques sur ce que l'usage que l'autorité publique fait des informations qu'il possède. N'oubliez pas que la démocratie, c'est le citoyen qui exerce un contrôle sur ce que les mandataires font des informations dont ils disposent. Et donc, si c'est, je conçois très bien qu'il y a là un risque, mais ça nécessite que parallèlement, le contrôle démocratique sur l'autorité publique soit... également développé. Je pense par exemple aux commissions sur les informations privées, ça s'appelle la CNIL en France, et il y a quelque chose de similaire. Donc des organismes comme ça doivent être parallèlement déployés de façon à ce que un petit nombre de mains ne puissent pas prendre possession d'informations qui permettent de dominer tout le monde. Je voudrais ajouter une toute petite chose. Mais je crois que notre réflexion, on dit que nous avons une réflexion philosophique ici. Oui, mais je préciserai qu'il s'agit de d'épistémologie, c'est-à-dire de philosophie de la science. Et qu'il faut également réfléchir au paradigme scientifique que nous adoptons en développant les méthodes qui sont les paradigmes économiques, notamment par rapport au développement de la science et notamment de la science physique. Bon, je suis un grand adepte de Nicolas Georgescu-Rueghen, qui est un économiste qui a toujours été vilipendé par les économies classiques, mais qui dit ça fait trop longtemps que les économistes n'ont pas encore compris ce que l'entropie, c'est-à-dire le phénomène inéluctable, quoi qu'on fasse, et irréversible, de la destruction permanente de l'énergie matière. Bon, je ne vais pas m'étendre, mais c'est fondamental pour réfléchir aux mécanismes économiques qui doivent être inventés pour que ces systèmes-là ne dérivent pas vers une financiarisation comme on l'a connue avec la crise de 2008.
Moi, peut-être avant d'arriver au côté égalitaire ou équité, moi j'ai quand même une question parce que je n'ai pas entendu, mais peut-être que j'ai mal entendu, je n'ai pas entendu dans votre discours que le système, je ne sais toujours pas si le système est efficace ou n'est pas efficace. Donc, est-ce qu'on ne peut pas revenir d'abord en se posant la question de se dire, est-ce que d'après vous, avec toutes les études que vous faites, est-ce que vous pensez que le système est efficace ou est-ce que vous pensez qu'il faut jeter
au niveau européen, on peut dire que les premiers résultats
sont... Avec l'objectif qu'il a été, pour lequel il a été créé, et pas évidemment qu'il est efficace pour faire gagner de l'argent à ces choses, c'est pas ça le principe. Mais est-ce qu'il est efficace par rapport au problème qui avait été
réduction,
réduction de CO2
D'après les premiers résultats au niveau européen, effectivement.
Il est efficace.
On voit que ça va dans le bon sens.
Mais il y a les crises.
Oui, bien sûr, mais voilà, comment on efficace, c'est un plus, quoi.
Et malgré les dérives, ce que tu dis, c'est que malgré les dérives de financiarisation, qui dégénèrent un peu le système, a priori, aujourd'hui,
pour un peu qu'on
le sait, il y a une certaine forme d'avance.
Par contre, au niveau international, là, d'après ce que j'ai lu, c'est assez alarmant. Au niveau de, donc, si on sort du marché européen, mais donc les autres États, comme je vous l'ai dit, les autres marchés ne sont même pas encore sur pied. On est en 2010 pour une période qui va de 2008 à 2012. Donc, vous imaginez qu'on est plus qu'à mi-chemin. On est fin 2010. Les marchés n'existent pas, sont balbutiants et tout. Et l'ONU est en train de s'affoler en disant ça va être la catastrophe, quoi. Les gens ne vont pas du tout respecter leurs engagements signés à Kyoto pour les pays donc OCDE hors Union européenne.
Mais est-ce que ça voudrait dire que c'était juste que ça ne peut marcher que dans un environnement où il y a un développement économique quasiment similaire dans tous les pays.
Mais non, parce que l'Union européenne, quand vous regardez, c'est déjà une mosaïque de marché entre la Roumanie et le tigre celtique à une certaine époque et tout. Ça n'a pas grand-chose à voir. Et finalement, ça fonctionne. Donc, je crois que dans des proportions raisonnables, ça peut marcher avec beaucoup d'économies, à mon avis.
Ce que tu dis, c'est que ça demande une instance internationale qui ait un certain pouvoir sur l'ensemble planète.
En fait, une commission européenne au niveau de,
au niveau de la planète.
Une commission internationale, on va dire.
Pour avoir participé à d'autres débats de ce genre-ci, d'autres journées, sur le prix de la nature, parce que ceci, ce n'est rien d'autre que le prix de l'air. Ici, on peut avoir sur le prix de la nature, le prix du sol, le prix de l'eau, quel est le juste prix qu'on doit donner aux éléments naturels. C'est exactement ça. Et ça rejoint ce que vous dites. Jusqu'où peut-on aller consommer et détruire finalement le bien commun pour jauger de l'équité, de l'efficacité, de tous les principes philosophiques que vous mettez en avant aujourd'hui, eh bien, comme je viens de dire, il faut une jauge. Et dans tous ces débats, franchement, on a toujours terminé sur le scoring. Que vaut ça? À combien doit-on l'appliquer? Et donc, par exemple, sur exemple pour faire un parallèle, la pollution des sols. Combien vaut un sol pollué par rapport à un autre sol? Quelle est la pollution? Quelle valeur peut-on lui donner? Et tant qu'on n'a pas fixé le scoring, donc qu'on n'a pas fixé qu'on n'a pas mis une échelle dans le prix de la nature, ben, l'équité, l'efficacité, tout ça, vous êtes incapable de le jauger vraiment, d'y arriver et de se dire, ben, on a atteint l'objectif. Parce que, alors ici, comme on l'entend dans le débat, oui, mais le système n'est pas complet, il a une fuite, puisqu'on peut injecter du MDM, et on n'est pas sûr que quand on pousse un MDM dans le système, il n'y a pas un autre quota qui sort de l'autre côté pour garder le volume identique.
Moi, mais là, ça pose une grosse question philosophique qu'on retrouve dans d'autres débats autres que l'environnement aujourd'hui sur le coût de la vie. Parce qu'avec le vieillissement de la population, ça pose des tas de problèmes de savoir jusqu'où on dépense des sommes faramineuses pour maintenir en vie quelques mois, quelques années des personnes de 80, 90, 100 ans. On n'a pas besoin de cela pour se poser des questions sur l'équité ou l'efficacité d'un système. Parce que
espérer qu'il y ait un jour le prix de la vie, le coût de la vie, enfin, on arrive dans un domaine très, très délicat.
Oui, mais ici, oui, mais ça, c'est le coût, c'est encore autre chose, parce que maintenant, on parle des hommes, on parle des hommes. Ici, on parle des activités anthropiques, précisément, qui ont un effet sur les éléments naturels.
Mais comment veux-tu faire le coût, déterminer le coût de l'environnement sans te référer à l'homme?
Ça ne pose aucun problème. En économie, toute économie est basée sur des normes. La comptabilité, c'est vrai qu'un jeu de normes. C'est une mission comptable qui se penche sur l'actualisation des normes, parce que le progrès scientifique fait que les normes doivent évoluer.
Oui.
Donc si l'économie est basée sur des normes, pourquoi l'environnement, l'écologie ne pourrait-elle pas être basée sur des normes?
Et donc,
j'ai fait il y a 20 ans avec quelqu'un que vous connaissez, Camille Brander, un bilan environnemental d'une entreprise en Hollande, il y a 20 ans. Mm-hmm. On a fait deux années suivantes. C'est-à-dire qu'on a valorisé toutes les externalités négatives de cette entreprise. Mm-hmm. On les a valorisées en faisant évaluer par des scientifiques le coût de la dépollution pour rendre l'externalité naturellement biodégradable. Mm-hmm. On est arrivé à un concept de valeur ajoutée, à un concept de valeur soustraite. Et on a été arrivé à la valeur ajoutée nette de l'entreprise. Notre plus grand problème a été de convaincre les scientifiques de nous mettre les valeurs. Exemple, l'eau usée de l'entreprise, ils ont été chercher le coût dans 9 stations d'épuration différentes aux Pays-Bas. Et ils ont agrégé ça, ils ont dégagé une norme. Ils ont été critiqués, mais le problème n'est pas là. On est critiqué, mais les critiques permettent de faire évoluer la norme, de dégager un consensus. Le tout, c'est de démarrer.
Ok, d'accord. Ça,
là, il faut mettre une première valeur, exactement comme pour les quotas, et puis on fait évoluer, en fonction des critiques, de l'avancée de la science, on fait évoluer le système. Mais moi, je pense que le tout, c'est dialogue.
Je ne parlerai pas sur la norme, je ne voudrais pas paralyser le système.
Non, il faut démarrer.
Je voudrais juste terminer, donc, la valeur du scoring, moi j'ai appelé ça le scoring, c'est vraiment la base, le fondement du développement pour, en vue de l'équité, de l'efficacité, etc. Et je voudrais quand même, vous devez connaître, mais il y a des travaux quand même sur les services environnementaux actuellement, et dont le dernier rapport a été rendu, mais tout récemment, le 10 octobre, le rapport final a été rendu le 10 octobre, je vous invite à aller le lire, c'est sur le site TIIB.org. Vous prenez connaissance de ce rapport, donc c'est sur la valeur des services environnementaux, et vous verrez que le scoring est vraiment le point de départ.
TEEB,
c'est parce que c'est
le
Raphaël, est-ce que tu peux répondre alors à Luc? Est-ce que les systèmes que tu as décrits partent d'une idée implicite ou explicite de scoring? Je ne pense pas.
Il faut quand même bien lire un des objectifs des marchés de droits d'émission, c'est ce qu'on appelle en anglais pricing carbon.
Ouais.
Donner un prix au carbone. Ouais. Et c'est une des premières grandes avancées. Maintenant, on peut critiquer la manière dont le marché s'est organisé, mais c'est que désormais, l'émission d'une tonne d'équivalent CO2 dans l'atmosphère par certains acteurs coûte quelque chose. Oui. Donc on a internalisé le coût. Donc là, on a créé une norme, on a créé un. Et par rapport à ça, et c'est une question qui se pose en philosophie, enfin en droit, et c'est quasi, ça dérive très vite vers la philosophie du droit, c'est la question de savoir comment qualifier juridiquement les droits d'émission. Qu'est-ce que c'est comme type d'instrument juridique? On a parlé de financiarisation. Et en fait, on se rend compte que les droits d'émission, un quota, ça n'est pas un instrument financier en tant que tel. La directive MiFID, donc sur les marchés financiers, les produits financiers, exclut du champ de définition des instruments financiers les quotas de CO2. Mais par contre, inclut les instruments sur quota, comme les forwards, les futurs, etc., qui sont simplement des marchés à terme. Donc, qu'est-ce qu'on observe? C'est qu'en fait, le quota s'est développé naturellement, parce que personne n'y avait pensé vraiment à l'origine, donc à qualifier légalement l'instrument, s'est développé sur le mode des marchés de commodities. Donc, on vend et on achète du quota comme on vend, on achète du blé, de l'huile, de l'électricité ou du gaz. Et la question quant à savoir si cette qualification par la pratique est pertinente, question peut être posée aujourd'hui dans un contexte d'émergence de différents marchés de droits d'émission. Donc on a parlé du marché Kyoto, on a parlé du marché européen. On commence à parler maintenant d'autres marchés possibles, donc aux États-Unis, avec les initiatives aux États-Unis, en Nouvelle-Zélande, en Australie, au Japon, etc., où l'on pourrait voir survenir un peu partout dans le monde des marchés de droits d'émission qui utilisent une même unité, qui est la tonne de CO2, ou assimilée, ou équivalente. Dites-vous bien que, par exemple, si on considère que planter un hectare de forêt absorbe une tonne de CO2, on peut très bien le décider, le reconnaître dans un pays, mais pas dans l'autre. Si dans un pays où on le reconnaît, on émet un droit d'émission qui vaut une tonne de CO2 et qu'on est dans un marché fongible, on va se retrouver avec un problème du pays qui ne veut pas reconnaître qu'un hectare de forêt absorbe une tonne de CO2 parce qu'il dit scientifiquement, ça n'est pas vérifiable. Et donc, on va se dire, en fait, on est sur un marché de commodities où d'habitude, on dit ben, une tonne de gravier ou un litre d'huile de palme, c'est un litre d'huile de palme. La question ne se pose pas. Eh bien, ici, on va se trouver dans un marché où un quota, une tonne de CO2 n'est pas spécialement équivalent à une tonne de CO2 parce qu'on a une qualité environnementale intrinsèque qui est différente. On a eu le cas, vraiment, de manière extrêmement pratique et pragmatique, avec les fameux projets en Chine. Donc, on a vu que la Chine a absorbé énormément de projets LDP. Et qu'est-ce qu'on faisait souvent ? C'est qu'on prenait une vieille usine, un vieux coucou, qui était quasi à l'abandon, qui ne fonctionnait quasi plus. On la relançait à un niveau environnemental exécrable et on développait un plan de réduction des émissions qui n'étaient pas des émissions de CO2, mais plutôt de gaz beaucoup plus polluants, je suis plus scientifique, mais je crois que c'était l'hexafluorure de soufre ou des choses comme ça, avec un, donc, une tonne, ça équivaut à 13 000 tonnes de CO2, donc on a vraiment des facteurs multiplicateurs. Et des gens qui ont fait des opérations financières extraordinaires en dégageant des quantités ici de ce qu'on appelle les CER, donc qui sont les quotas NDP spécifiques, quoi, les droits d'émission issus des mécanismes de développement propre, qui sont compatibles avec les quotas européens, mais qui ont une valeur environnementale dont on s'est rendu compte après tout qu'elle est vraiment mauvaise. Quoi. Et donc le modèle commodity, ce qui consiste à dire 1 égale 1, est faux. Et certains pensent à se dire, en fait, ce serait plus logique d'évoluer vers un modèle monétaire, avec des taux de change entre les quotas, en disant, en fonction de la qualité environnementale d'un quota, eh ben, on va lui donner un taux de change par rapport à un autre quota standard, par exemple, avec des taux flottants. Ce qui aurait pour effet d'inciter, en fait, les États à n'accepter que des projets à haute valeur environnementale, et ce qui pousserait le régime vers le haut. Mais donc, on en est...
Alors, j'essaie de comprendre l'opposition éventuelle entre ce que Arnaud a dit et toi. Est-ce que tu as l'impression que les mécanismes actuels, par tâtonnement, par erreur, essai-erreur, mènent à une valorisation, entre guillemets, correcte d'une tonne de CO2? Ou plutôt, comme l'a dit Arnaud, on voit le risque qu'aujourd'hui, sans un contrôle fort d'une institution internationale, le système dégénère pour... C'est pas tout.
Il faut les deux. Il faut clairement les deux. Il faut une initiative.
Oui, ça, c'est alors, tu rejoins carrément Arnaud dans sa vision ordolibérale.
Oui, mais moi, je ne crois plus dans un accord international qui va nous organiser tout ça. Donc, l'approche top-down, on peut l'oublier. On va avoir une approche bottom-up avec des initiatives locales qui vont s'agglomérer, mais qui idéalement, devraient s'organiser autour d'une institution qui serait reconnue. Il existe pour le moment un débat quant à savoir, notamment, est-ce que ce serait la Banque mondiale qui pourrait jouer ce rôle ? Est-ce que ce serait le Fonds monétaire international ? Ou est-ce que ce serait l'Organisation mondiale du commerce ? L'Organisation mondiale du commerce, elle pourrait se sentir investie de ce rôle si on reconnaît qu'en fait, elle dit, écoutez, ce sont des produits, ce sont des marchandises comme les autres. La Banque mondiale et le Fonds monétaire international vont plus dire non, c'est plus une monnaie qu'on est en train de créer maintenant plutôt qu'une commodité. Mais la question donc philosophique de la qualification légale exacte et précise des droits d'émission de manière globale est une question qui se pose de manière très très fondamentale si on veut à un moment s'accorder sur la manière dont on va pouvoir réglementer à très très grande échelle les marchés de droits d'émission.
Et quelle est la différence alors, excusez-moi, pour vraiment... clore, et pas clore, mais en tout cas avancer sur ce débat, quelle est la différence entre l'ONU que propose Arnaud pour réglementer cela et la Banque mondiale que tu proposes?
C'est des rapports d'équilibre, des rapports de pouvoir, savoir où on va.
Non, c'est des institutions financières.
C'est un peu loin que ça. L'ONU n'a pas de pouvoir législatif. L'ONU n'a qu'un pouvoir par adhésion. Il n'a pas de pouvoir de sanction, l'ONU. Enfin, je comprends.
Le Conseil de sécurité.
Oui.
Le Conseil de sécurité décide des sanctions économiques.
Par rapport à notre question de base, est-il responsable de confier au marché les erreurs du marché? On sent quand même ici peut-être des nuances, mais quand même importantes, quant à savoir si le marché, comme tu viens de le dire, ou les marchés vont se réguler entre eux par, je vais dire, échange entre eux, etc. Ou alors, s'il faut vraiment une instance globale qui impose des règles à ces différents marchés pour les harmoniser, pour qu'ils fonctionnent dans l'intérêt commun. Ça, je pense que je me trompe.
Je crois qu'un encadrement, c'est nécessaire, mais je pense que si on veut vraiment faire fonctionner quelque chose à une échelle mondiale, c'est toujours un système d'adhésion. Donc ce sont des États qui acceptent volontairement de se lier entre eux et de se conformer à un certain corps de règles. Moi, je ne pense pas, donc je reviens sur ce que j'ai dit, je ne pense pas qu'un jour tout le monde va s'asseoir autour d'une table et signer un papier. Je pense qu'il y en a deux qui vont signer un papier, qu'il y en a un troisième qui va venir, un quatrième, un cinquième, un sixième. Et qu'on va avoir une approche qui va se faire comme ça et qu'au final, on aura quelque chose de régulé, mais qu'il est un peu utopique maintenant à ce stade-ci. Bon, on peut rêver, mais et c'est possible que ça existe, mais... Je ne pense pas qu'on va arriver à une espèce de formule globale qui va une fois pour toutes déterminer comment les choses vont se faire.
La méthode Copenhague.
Et puis, monsieur
Je pense qu'il y a quand même, au niveau philosophique, une contradiction fondamentale avec au niveau de fonctionnement de l'économie. Un marché, c'est beaucoup d'intervenants, beaucoup d'acheteurs et beaucoup de vendeurs. Or, l'économie, de par la loi des frais généraux, si je puis dire, des frais fixes, elle a une tendance concentrationnaire et centralisatrice. On le voit dans tous les secteurs, pharmaceutique pour des raisons d'IP, automobile pour des raisons d'investissement, sidérurgie pour des raisons d'investissement, matériaux pour des raisons de limite de la... Ici, c'est un mécanisme qui va, comme je l'ai dit tout à l'heure, accentuer le poids des grandes entités. Ça veut dire une économie systémique, une économie moins résiliente, etc., etc. Donc il y a cette contradiction fondamentale, l'économie ne fonctionne, les marchés ne fonctionnent que s'il y a beaucoup d'intervenants, et le système économique lui-même, on est dans un système, on n'est pas dans un processus mécanique, la logique du système est différente de la logique de ses composants, l'économie est centralisatrice. Donc l'autorité, ce qu'elle doit faire pour moi, c'est éviter les too big to fail dans le monde bancaire, mais éviter, mettre en place des mécanismes régulatoires, bon, la jury, je vous fais confiance pour les mettre en place, qui redimensionne en permanence les secteurs économiques et éviter tous les mécanismes qui centralisent, qui jouent sur les rapports de force. Et si on centralise, c'est toujours les gros au détriment des petits. Donc c'est philosophique.
Parce que même sur des mécanismes à toute petite portée, comme les certificats verts, par exemple, sur le photovoltaïque, c'est un tout petit marché, le marché wallon est un tout petit marché, il n'a pas une énorme liquidité, bien, il y a cet effet de concentration. Déjà, on voit qu'il y a des acteurs qui veulent les réguler par le marché, ce tout petit marché, qui concentrent entre leurs mains le mouvement des certificats, le moment de la vente, le prix finalement, hein, puisque tout en est le prix. Mais c'est un tout petit marché. Mais c'est un marché qui a donné une valeur aux faisceaux lumineux qui tombent dans des panneaux. Hein, donc, mais voilà, il y a maintenant des acteurs qui s'agitent pour dominer un petit marché comme ça. Ouais, c'est la réflexion de Baudouin. Il a parlé d'un tout petit marché, mais ça existe.
C'est là la complémentarité entre l'écologie et l'énergie, hein, puisque l'écologie, c'est exactement l'inverse. C'est la répartition, c'est... Et c'est cet équilibre à trouver. Les organes publics, ils doivent veiller à cet équilibre.
Je voudrais revenir sur deux, trois étapes en arrière dans la discussion, notamment le juste prix à payer. Le mécanisme tel qu'il est présenté, ce mécanisme de marché, suit les lois du marché. Donc, dans le meilleur des cas, équilibre offre-demande, avec un risque de spéculation qui est dessus. Tandis que la recherche d'une jauge, d'un standard de mesure, ce sont des méthodes bien connues, analyse coût-bénéfice, analyse de cycle de vie qu'on peut monétariser, pour prendre le terme économique, mais ces deux choses sont deux mondes complètement différents, qui n'ont aucun lien entre les deux, avec un risque que l'on finira par payer éventuellement la tonne de CO2, 10 fois, 20 fois, 50 fois, le prix réel de ce qu'elle représente au niveau de traitement, ou l'inverse. Il n'y a pas de lien entre les deux, il n'y a pas de lien entre tous les efforts qu'on peut faire pour rationaliser le coût d'une tonne de CO2 et le prix de la transaction de CO2. Et ça, c'est un danger fondamental de mon point de vue.
Oui, est-ce que je peux faire une remarque, parce qu'on parle de CO2 comme si c'était vraiment la cause de changement climatique. J'ai lu une étude quand même corroborée par des scientifiques, comme quoi, il y a très longtemps, il y avait déjà une quantité de CO2 énorme dans des couches glaciaires. Donc ça, c'est une chose. Deuxième chose, le raisonnement des scientifiques était le suivant. Voilà que l'économie qui est un peu à la dérive trouve un moyen de nouveau de commercialiser une substance ou une matière de notre planète. Et troisièmement, la grande pollution de notre planète n'est évidemment les industries, mais aussi la pollution du sol. Et je peux dire qu'il y a des terres qui disent des certificats, etc. Et moi je pense que ça, c'est un problème peut-être un peu plus important à traiter que maintenant de nouveau confier notre planète aux mains des marchés. Voilà.
Nous avions pris comme hypothèse de départ que le travail, que le CO2 était quelque chose d'important. Mais je partage votre point de vue. En tout cas, merci.
J'aimerais bien répondre à l'une ou l'autre
chose. Je pense pas qu'on peut laisser au placard un problème de réchauffement climatique au profit de la seule désertification, comme vous dites. Je pense que c'est très global. Et donc, dire occupons-nous d'abord des déserts et puis on s'occupera du carbone, c'est une fausse idée aussi. C'est une fausse idée. Et donc, il faut s'en occuper. Autrement, demain, quand vous aurez 40 degrés en hiver et puis 60 degrés en été, vous allez faire rissoler la moitié de la population. Et vous allez faire quoi alors? Le désert sera encore plus grand.
On
passe trop dans le débat, sinon on n'en sortira pas.
De cette préliminaire.
Arnaud avait des réponses.
Juste quelques petites réponses, quelques petites choses. Le quota. Quelle est la qualification juridique du quota? Nous, on appelle ça, dans mon jargon de mon centre, un OJMI. Un objet juridique non identifié. Dans la mesure où, effectivement, je me suis livré une petite étude de droit comparé, je me suis rendu compte qu'au niveau de l'Union européenne, je crois que 3 États le qualifient comme une marchandise, 10 autres comme un service financier. Et ce n'est pas uniquement pour le plaisir de le classifier, mais comme vous l'avez bien dit, ça a des effets sur les règles par rapport à l'Organisation mondiale du commerce. Ce n'est pas du tout les mêmes règles qui s'appliquent à une marchandise qu'à un service financier. Ne fût-ce qu'au niveau européen, une marchandise ou un service financier, c'est d'autres directives, donc c'est d'autres. Et donc on attend un peu tous une décision de la Cour de justice de l'Union européenne pour qu'elle qualifie la chose. Et d'après ce que j'ai pu comprendre, la Commission a décidé que dans sa prochaine directive, elle va décider de la qualification juridique du quota. Donc c'est
ce qui ne sera jamais que la position de la Commission.
Si on le met dans la directive, disons, ça a quand même...
C'est-à-dire que...
Plus de temps.
Oui, mais il y a toujours un juge qui va pouvoir venir vous dire, écoutez, ça c'est une taxe. Et donc, surtout si on va faire des mises aux enchères. Hein. Donc dans le cadre de la mise aux enchères, c'est ce qu'on a dit tout à l'heure, en fait, on arrive à un système de taxe, avec une taxe, avec un taux flottant qui est déterminé par le marché et non plus par... Mais on arrive à quelque chose qui pourrait rencontrer toutes les caractéristiques constitutionnelles, cette fois-ci, d'une taxe. Et donc, quoi que dise un législateur, ça sera une taxe.
Mais on est conscient du problème, et donc chacun essaie avec ses propres instruments d'avancer dans la chose. Mais donc la Commission essaie de résoudre le problème. Pour ça, on n'est pas à l'abri qu'un juge renverse la chose, mais ça rend la chose plus difficile.
La question est posée à la Cour de justice dans le cadre d'une question préjudicielle qui est posée par une cour anglaise qui a connaître d'un litige des avionneurs américains qui contestent l'intégration du système européen aviation dans le IETS et donc qui ont notamment soulevé comme moyen que c'est contraire à la Convention de Chicago et que en ce sens que cela crée des taxes qui sont non autorisées dans le cadre de la Convention de Chicago et qui disent que ça équivaut à une taxe, au moins dans la fraction payante des quotas. Donc si la Cour va jusque-là, elle va donner une réponse à cette question.
À vous écouter, est-ce qu'on n'est pas dans un système que j'appellerais un système en escalier ? C'est-à-dire qu'on part de deux principes, c'est-à-dire qu'on a d'abord une certaine de bottom-up, c'est-à-dire de gens, des acteurs économiques qui se mettent ensemble, qui développent un système, un marché, et puis un régulateur qui vient mettre une sorte de couche légale et législative et qui permet de clarifier un certain nombre de principes et de mettre tout le monde un peu au même niveau et puis de permettre à de nouveau des acteurs à monter un grade plus haut et puis hop, on met une couche législative. Autrement dit, on monte par forme d'escalier, c'est-à-dire c'est des initiatives privées mais qui permettent d'être, j'allais dire, un peu coupé ou façonné après par des étapes législatives.
C'est l'inverse, en fait. C'est le législateur. La tonne de CO2 n'a aucune valeur si le législateur n'avait pas décidé qu'il y en avait.
Parce que, qu'il a créé les conditions.
On est vraiment dans un jeu qui est organisé complètement par la législation. La rareté, donc l'objet est créé, sa rareté est artificielle aussi. Parce qu'en soi, on peut produire autant de CO2 qu'on a envie, entre guillemets. Enfin, techniquement, c'est un fameux défi, mais bon. Et en fait, ça ne vaut que par ça. Donc, ce sont les règles qui sont définies à l'avance. On a vraiment créé un jeu de société géant. On va pas l'appeler Monopoly. On va là-dedans, mais c'est pas spécialement un Monopoly, c'est un risque ou un jeu de société géant avec des règles assez complexes. Une nouvelle directive, il faut voir la batterie de règles dont elles vont perdre. On a notamment le nouveau règlement registre qui est sorti. On va avoir une nouvelle décision pour les allocations gratuites, une décision particulière concernant toutes les règles pour la mise aux enchères, etc. Ce sont des textes qui sont extrêmement indigestes, volumineux, difficiles à avaler, mais qui définissent les règles précises du marché et les conditions dans lesquelles le marché existe, quoi. Donc on n'est pas du tout dans un phénomène où le législateur intervient en réaction par rapport au développement d'une pratique. C'est l'inverse. Le législateur intervient et une pratique se développe.
Sauf les marchés volontaires.
Ouais, sauf marché volontaire.
Ça fleurisse partout.
Question pour moi d'information. Il n'y a aucune notion de date de péremption pour un contrat.
C'est la bancabilité, ça. C'est
oui,
ça.
Justement. Oui. Parce que ça me paraît tellement pervers.
Mais donc pour l'instant, on a tendance à le.
On peut accumuler en attendant, si chouette, on a fait moins autant de pourcents, mais en fait, il y a un résidu utilisable dans l'avenir qui a toujours sa valeur de quota. Ouais. Et il y a là-dedans quelque chose qui.
C'est-à-dire que si tout le monde accumule. Si tout le monde accumule, le prix va s'effondrer. Parce que normalement, ça, c'est censé avoir une réponse.
C'est le
contrepoids.
Il faut garder la tension.
Est-ce que c'est un bien patrimonial? J'ai en tête la société Brinks qui a failli être en faillite. Mais on a supposé qu'elle eut des quotas. Le repreneur. Il reçoit ses quotas. Donc c'est un actif.
C'est un actif.
Oui,
comptablement, c'est un actif.
Bon.
Et donc
se pose toujours la question de savoir si c'est une commodity ou une monnaie ou.
Oui, c'est pas tranché ça.
Une taxe, ce n'est pas un élément d'actif.
Ça peut rester. Mais si c'est une commodity, ça peut rester un actif.
Oui, mais pas si c'est une taxe.
C'est pas au même endroit, mais ça peut.
Oui, mais pas si c'est une.
Non, le quota n'est pas une taxe, de toute façon.
Non, mais il semblerait que la Cour européenne de justice va devoir décider.
Le quota vendu aux enchères, on peut se demander à un moment si ce n'est pas une taxe.
La question est raisonnable.
C'est
débattu.
Réflexion
qui se passait par les.
La nouveauté consisterait à activer une taxe.
Le danger, c'est une question.
Voilà.
Une question naïve. Donc, on a créé un marché de quotas sur une communauté qui n'existe pas, puisque juridiquement ça n'existe pas. Donc on a.
Non, juridiquement ça existe, mais on n'a pas classé. On n'arrive pas à le
déterminer. Une clarification aussi.
Ça existe là.
Nous sommes des exemples existants. Ce sont des unités de compte. Donc pratiquement, matériellement, ce sont des unités de compte électroniques. Chaque quota, c'est un code compliqué dans lequel on peut avoir une traçabilité, etc. Et ce sont des inscriptions électroniques dans des codes qui sont vraiment les fameux registres dont on vous a parlé. Donc, c'est chiffrable, identifiable, comptable.
Et alors, le lien avec la remarque qui avait été faite avec l'objet juridique non identifié,
oui. Une question de classification.
Mais justement, voilà, on crée finalement une monnaie, en tout cas européenne, on va dire. On met tout un système à fond et à la fois, la première question de savoir ce que c'est n'a pas été tranchée. Et donc, c'est un objet juridique non identifié, mais c'est quand même un objet.
On ne discute pas le fait que ce soit un objet.
Voilà, c'est ça.
On discute l'objet existe.
Oui.
C'est ça.
Est-ce que c'est un droit
de propriété?
Les juristes sont beaucoup acharnés sur la question
de savoir si c'est un droit de propriété. Mais le danger, quand vous dites que l'objet est un actif, hein, mais le danger, c'est qu'en appliquant les mécanismes financiers complexes des marchés traditionnels, l'actif se transforme en passif, en actif en passif, avec des risques de rétroaction qui déstabilisent le système. Et on pourrait avoir une crise, ça ne m'étonnerait pas qu'il y ait une crise.
Mais un truc qu'il faut pas oublier en matière de droit d'émission, c'est qu'un droit d'émission, c'est un peu lié à votre question de la prévention, mais c'est que au final, un droit d'émission, ça ne sert qu'à une catégorie de personnes bien spécifiques. Donc vous pouvez détenir à titre personnel des droits d'émission si ça vous amuse de spéculer dessus à la hausse ou à la baisse. Mais au final, vous n'en aurez jamais aucune utilité, sauf si vous êtes un écologiste convaincu et que vous les annulez et que ça vous permet de mieux dormir.
Mais c'est vrai que vous pouvez pas faire combien aussi. On achète des tonnes de sucre, on n'imagine pas qu'on
est. Oui, donc tout à fait. Mais c'est-à-dire que le quota n'est pas non plus quelque chose immatériel au point qu'il n'a pas d'utilité. Au final, le quota, il y a un exploitant d'installation qui va vouloir l'acquérir parce qu'il doit remettre une déclaration de ses émissions et un nombre équivalent de quotas à l'autorité en fin d'année, sinon il a une amende. Donc ça reste quand même, attention, quelque chose qui a une finalité environnementale et un but administratif et une force libératoire vis-à-vis d'une obligation qui est imposée à certains exploitants, bien réelle. Ça n'est pas non plus.
On
n'est
pas non plus dans le. Là, ça rejoint ma question sur la péremption, c'est que le fait d'accumuler des vieux quotas. Changer cette réalité d'utilisation possible
du quota. Mais en même temps, si on lui donne, c'est la question de sa date d'inventabilité, si on lui donne une date de péremption, on éteint sa valeur relativement.
Et ça crée des
tas de. Et donc, on tue le système dans le.
Il met un intérêt négatif.
Mais tout ceci mène à une question peut-être qu'on pourrait se poser en tant qu'individu. Qu'est-ce que. On a discuté maintenant de manière assez large du système global, sous-global qui se met en place. Qu'est-ce que ça peut nous inviter à faire, nous, en tant qu'individus? Tu l'as dit tout à l'heure, les barrières à l'entrée pour un individu sont extraordinaires, énormes. Ou comme chef d'entreprise, qu'est-ce qu'on peut faire? Quelles actions peut-on mener à notre niveau par rapport à ces questions?
Moi, je crois quand même la possibilité, si l'information est suffisamment transparente, de donner à chacun une représentation du comportement des entreprises vis-à-vis de ces quotas.
De manière alors à pouvoir prendre des actions, entre guillemets, de boycott ou pas,
oui, de la même façon que le rapport sur la
aller dans son sens, on pourrait très bien exiger que dans les comptes de résultats d'une entreprise figurent les consommations de quotas.
Tout à fait. Et aussi le fait qu'ils ont dit acheter.
Le, oui.
Et donc là, la transparence aiderait à faire mieux fonctionner ces marchés.
Est-ce que c'est pas déjà
le triple bottom line, c'est un peu ça.
Alors, les allocations des entreprises sont publiques.
Donc là, elles sont publiées par invité.
Mais quand une entreprise publie ses comptes, les mouvements sur les quotas doivent intervenir d'une certaine manière dans son rapport.
Et les registres sont publics. Hein.
Les registres sont publics. Mais alors, je suis tout à fait d'accord avec madame. Je pense que c'est ça qu'il faut faire. En fait. C'est informer les gens pour que les gens comprennent comment ça fonctionne, mais qu'il n'y ait pas aussi ce rejet en disant oh là là, c'est compliqué, ce sont des marchés financiers, il ne faut pas faire ça et tout ça. Ouais. Non, ça existe. Depuis maintenant 2005, il est temps que le citoyen ait connaissance de la manière dont ça fonctionne et puisse exercer un contrôle.
Alors, mais ce qui est intéressant pour faire le lien avec l'ensemble du cycle qu'on mène aujourd'hui sur la base des travaux de Benoît Friedman, c'est que ce que tu évoques, Marie-Laure, et ce que tu dis là, c'est en fait dire que la régulation par l'État, c'est plus ça vraiment qui va faire avancer les choses, c'est plutôt la co-régulation, c'est-à-dire l'interaction entre les différents acteurs, dont les citoyens en tant qu'activistes, entre guillemets, hein, consommateurs,
citoyens, en tant qu'activistes,
ou citoyens consommateurs, allez, pour mettre tout le monde d'accord, citoyens consommateurs vont je vais dire, au travers de leur choix de consommation, influer ou créer une sorte de régulation.
Oui, ou les lecteurs,
ou les groupes de pression, etc. Ça, tu peux confirmer, Arnaud, c'est ça que...
Donc ça, c'est tout à fait typique. Hein. Donc la co-régulation, on voit qu'il y a de plus en plus de secteurs, de politiques qui sont dans cette logique co-régulatoire, qui veut que l'autorité publique repose sur la société civile ou le secteur privé pour déterminer la norme et pour l'aider, en fait, dans la prise à bras-le-corps de la politique qu'elle met en place.
Et qui, paradoxalement, fait de la régulation une sorte d'objet dans un marché.
Ici, l'Union européenne met des directives en place, et qu'est-ce qui se passe? C'est les bourses. Ouais. Les bourses et ces acteurs, les intermédiaires financiers, comme je l'ai montré dans mon dernier slide, qui vont déterminer la norme maintenant. Et donc, on est là complètement dans une logique de co-régulation.
Oui. Donc, si j'ai insisté pour l'usage du mot citoyen, c'est parce que ce que tu viens de signaler diminue la possibilité du citoyen de contrôler ceux qui régulent. À partir du moment où c'est entre des mains qui ne sont plus celles de la puissance publique. Et donc, il est essentiel que le citoyen individuel, s'il confie une mission de régulation à un organe, fût-il public ou privé, continue à pouvoir exercer son contrôle de citoyen sur la manière dont cette régulation se fait. Et donc, il faut faire attention quand on dit « Oui, on va promouvoir de la co-régulation, c'est plus seulement... »
J'ai dit « promouvoir », j'ai dit que ça
existait. Mais quand on constate le déploiement vers des régulations qui ne sont plus exercées d'une manière monopolistique par la puissance publique, mais par des aides à la puissance publique qui sont pilotées par...
Ça pose un problème de contrôle.
On ça bien pose un ça, problème de contrôle. Donc il faut faire attention.
Pour revenir sur le système en général, donc c'est un cap and trade. Le cap,
c'est l'objectif.
L'objectif, à l'époque, il avait été fixé parce qu'on était dans un état de consommation X. Donc, que le monde se développait d'une certaine façon et qu'on avait une propension à consommer ce qu'on veut. Donc, réduire cette consommation, notamment la consommation de CO2. Je pense que le premier effet qu'on peut donner au rabaissement du cap, hein, c'est nous, c'est les consommateurs, donc c'est la consommation. C'est-à-dire que demain, on doit consommer moins de CO2. Et donc, on va réduire le cap, on va donner de l'attention au marché et on va atteindre l'objectif comme ça. Et ça, pour répondre à ta question, c'est le premier objectif. C'est la consommation. Sans consommation, il n'y a pas de CO2. Je vis comme un homme des bois, je consomme pas, je ne produis pas de CO2. Oui. Je consomme, il y a du CO2.
C'est ce qu'a évoqué tout à l'heure Arnaud, c'est que précisément le système a permis aux États-Unis de dire on laisse nos citoyens continuer sans être troublés et nous on achète sur les marchés internationaux auprès d'autres
on
États.
On encourage même la consommation parce qu'on donne du crédit à 0%. Et on compense, nous, uniquement par les moyens financiers.
Et donc là, on voit que le système, effectivement, a
des effets contraires
à ce qu'il...
Oui, mais si le citoyen américain disait « Demain, je consomme moins ou je consomme mieux », Le système est inversé.
Oui, mais comme ce n'est pas le cas, mais maintenant, si les États-Unis avaient baissé de 5,2% leurs émissions de 1990 en achetant, donc, c'est-à-dire en développant des projets qui relèvent du mécanisme de développement propre, les transferts financiers qu'il y aurait eu dans les pays, alors maintenant, est-ce que ça aurait été exclusivement en Chine et en Inde? Mais ça, ce n'est pas un problème de principe, c'est un problème pratique d'avoir, enfin, de dire structurel, d'avoir fait relever l'Inde et la Chine du système du mécanisme de développement propre, ce qui est peut-être une erreur, enfin bref, c'est discutable. Mais s'il avait fallu faire les transferts financiers pour les 5% de réduction des États-Unis sur la période 2008-2012, mais c'était des centaines de milliards de dollars qui auraient dû être investis dans ces pays et qui auraient dû être investis dans des technologies propres. Il ne faut pas non plus tout jeter là-dedans.
Il faut tourner la planche à billets. Les Américains, quand ils ont besoin de dollars, il faut tourner.
Non, mais quand on met des éoliennes en Éthiopie, ça reste des éoliennes.
Mais ça reste des éoliennes. Et on vous donnera le droit d'émission que si vous démontrez que ça permet d'éviter la construction de nouveaux.
Oui, à la différence près qu'en réalité, qu'est-ce qu'ils ont mis en place les États-Unis à Kyoto? C'est qu'on s'est basé sur 1990. Or, en 1990, il y a la chute de l'URSS. L'URSS, qui était une grande puissance polluante à l'époque, s'est écroulée économiquement. Et donc, en fait, eux, ils se retrouvaient avec beaucoup trop de quotas, puisque leur économie... Et donc, l'idée, c'était que les États-Unis rachètent tous ces quotas à l'URSS, à la Russie et à l'Ukraine. Et là, il n'y aurait pas eu le développement d'un seul projet plus propre. Ça aurait été juste un transfert financier où la Russie vendait aux États-Unis ses milliards de tonnes en trop. Donc là, on aurait complètement raté le truc. Par contre, effectivement, si ça avait été pour la Chine, l'Inde ou le Guatemala, là, c'était intéressant parce qu'effectivement, une éolienne reste une éolienne. Mais malheureusement, l'idée des États-Unis était moins...
Donc,
moins
c'est pour dire, sur le principe, l'idée n'est pas mauvaise. Mais dans la pratique, on a vu donc ce qu'on appelait l'air chaud russe. Alors on a parfois acheté des droits d'émission russes, mais alors il fallait les verdir, hein, greening et use, donc on appelait ça. Et donc c'était s'assurer que quand on achetait par exemple des unités hongroises ou russes, que le gouvernement russe allait investir cet argent dans des technologies propres, etc. Donc il y a toutes sortes de choses qui sont faites. Mais c'est pour dire, mais ça ce sont, on va dire, des problèmes pratiques qui ont été liés à des choix qui ont été faits. Mais sur le principe, il faut être conscient que le principe n'est pas loin d'être une mauvaise idée. Et qu'il ne faut pas se laisser trop vite bluffer en disant « Oh là là, c'est de nouveau les marchés, les gens qui vont s'en mettre plein les poches. » Ce n'est pas tout à fait, ça n'est pas aussi simple que ça. Ça n'est pas aussi simple que ça, je pense. Et si on peut retenir au moins ceci.
Oui, moi je voulais simplement dire, je crois qu'il y a un consensus pour dire que la réaction, elle doit venir de façon décentralisée au niveau de chacun. Encore faut-il que les structures économiques et financières le permettent. Quand on parle, je crois que c'est vous qui avez dit « Bon, il faut faire attention aux actions qu'on achète. » Mais en fait, notre argent, il passe par les fonds de pension, il passe par les plans de pension, il passe par le banquier, je crois que je l'ai dit la fois dernière. En fait, on n'a aucune transparence, aucune maîtrise. Je crois que l'autorité publique doit favoriser un retour à des structures de base. Moi, ce qui me rend très optimiste, c'est de voir que Greenpeace a plus de 10% de la population allemande ou hollandaise qui est membre, plus de 110 000 membres en Belgique, Test achat 300 000 membres en Belgique, il n'y a pas un parti politique qui a ça. Dans un retour aux coopératives, je suis très heureux de voir qu'Argenta va augmenter son capital avec une formule de coopérative. Les coopératives comme Backup et Serra ont disparu. Dans la grande distribution, les coopératives ont disparu. On va revenir à ça. Mais c'est chacun de nous qui va prendre cette initiative et les autorités publiques, encore une fois, elles doivent avantager ces structures décentralisées, et pas vouloir contrôler tout comme Big Brother, parce que ça ne marchera pas, je crois que tout le monde l'a
compris. Mais favoriser la transparence.
Pardon ? Ah oui, favoriser la transparence et favoriser les structures qui permettent cette transparence. Parce que si on va chez Argenta, on aura peut-être plus, ou chez Triodos, on aura peut-être plus de transparence que si on va chez BNP Paribas Fortis, parce que celui qu'on va avoir au bout de l'autre côté du comptoir, il ne saura jamais nous dire où son collègue de Paris ou de
Mais de tout ce qu'on entend, il y a quand même pour moi une réflexion de fond qui me vient à l'esprit, c'est que même si on est d'accord qu'effectivement aujourd'hui ça peut être une bonne chose à travers d'éventuels écueils de promouvoir ces marchés pour pouvoir donner un prix à l'environnement, etc., on ne peut pas s'empêcher de penser qu'il y a d'autres sociétés qui ont, de manière beaucoup plus naturelle et sans avoir recours au marché, pris des mesures pour être moins, justement, dévastateurs de l'environnement dans lequel ils
vivent. Mais alors, là, tu rentres dans une discussion, mais alors, copernicienne.
Oui.
Copernicienne.
Oui.
Allons voir les Mayas.
C'est les Indiens. Exactement.
Les Mayas,
exactement.
Les Indiens. Ils avaient, là, la nature avait un prix supérieur à la prix, au prix de la vie elle-même, puisqu'on sacrifiait des gens au soleil, on sacrifiait des gens à la forêt.
Donc, la belle époque.
Tu es dans une, tu étais vraiment dans un, dans quelque chose de compétitif et qui touche à notre pensée géopolitique. L'homme est le centre de la création. Dans ces civilisations, la nature et l'homme se partageaient ce centre. Et donc, aujourd'hui, et c'est ça le plus dur, à mon avis, c'est l'étape la plus dure à franchir, c'est de se dire, et pour un investisseur immobilier ou pour n'importe quel investisseur, c'est de se dire que je ne suis pas le centre, mais qu'aujourd'hui j'ai un partenaire face à moi, comme les Indiens l'avaient, et comme d'autres civilisations l'ont encore, hein, j'ai un partenaire avec moi, je dois partager, je dois partager. C'est là que tu touches, mais au centre du prix de la nature. Et donc, on déplace le centre judéo-chrétien, c'est-à-dire l'homme, vers, on donne quelque chose à la nature. Et ça, c'est un sacrifice pour notre société dont on ne se rend pas compte de la portée. Hein.
Il y a
une façon complémentaire d'analyser le problème, c'est de croire que l'être humain a un pouvoir quasi divin de changer le climat, la terre.
C'est
quelque part un
nouveau destin. Oui, parce qu'on ne pense pas les découvertes
de la physique qui ont été faites. Bon, on va voir. Malheureusement, on va en terminer là. Arnaud, je te laisse. Alors, le mot de la fin sur ce qui t'a paru être le plus important ou ce qu'il faudrait que nous retenions de...
Mais ce que j'ai envie que vous reteniez, c'est que le Centre Pérebel organise un cycle de conférences sur ce sujet. En février et mars, je ferai suivre les invitations où justement on a pu voir aujourd'hui les différentes facettes qui sont scientifiques. Qui sont à la fois économiques, qui sont politiques, qui sont juridiques, et donc on a fait venir donc des experts de chacune de ces disciplines pour parler du même sujet, pour justement voir toutes les imbrications. Et donc même si vous ne pouvez pas y assister, nous podcastons le tout sur notre site internet.
Et donc, c'est quand la date?
Donc ce sera chaque vendredi de février et mars.
Je vais les mettre sur le site.
Mais voilà, donc c'est ça que je voulais vous dire, c'est parce que c'est un problème qui est multipluri interdisciplinaire. Et que donc là, ça nous permettra de se faire un vrai avis avec des spécialistes de chacune des parties. Et je vous remercie de votre attention. Vous êtes déplacé un samedi matin à la plus fine pointe de l'aube pour venir écouter.
Merci beaucoup à vous tous. Et donc, on se retrouve, si je ne m'abuse, c'est le 17 et le 18. En tout cas, le 17 pour une conférence et le 18 pour un séminaire comme celui-ci. Ce sera avec Daniel Hurstel sur l'économie sociale. Les mouvements liés à l'économie sociale et voir un peu comment tout cela peut jouer un rôle aussi dans la responsabilisation par rapport à l'évolution de notre société. Merci beaucoup à tous et à bientôt.
Merci beaucoup. Il y a une conférence de Riffley.
Ah oui,
mercredi
prochain.
Mercredi soir à 20h, ici d'ailleurs,
absolument.
Dans
celui
aussi, dont le sujet est.
Eh bien, c'est sûr, en fait, le rôle des religions dans aussi la responsabilisation, dans la notion, le développement de la notion de responsabilité. Donc, ça rejoint ce que Luc vient d'évoquer par rapport au Maya ou autre.
C'est personnel.
Merci.
Voilà, merci.